Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez retrouver les derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la guerre de l'eau qui a déjà commencé dans notre beau pays, notamment avec les méga-bassines et la méga-manif qui a eu lieu le samedi 6 novembre. Mais on le fera la prochaine fois. Oh, teasing quand tu nous tiens. On aurait pu vous parler également de l'intervention du mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. À noter, hein, juste, les chômeurs doivent travailler. Simplement, ce concept, le travail, une invention du capitalisme, n'est pas un but en soi, sauf bien sûr pour ceux qui gagnent du pognon en exploitant le travail des autres. Et on le sait depuis la fin des années 1980, du travail pour tous, il n'y en a plus. À noter aussi, dans son intervention, le pass sanitaire n'a plus de limite. Le plafond du 15 novembre n'a plus d'existence. Et il faut même se faire à nouveau piquer pour les plus vieux d'entre nous pour ne pas être punis à partir du 15 décembre. Comme quoi, les mesures liberticides passent crème en démocratie. Il suffit, et vous allez voir que la technique est simple, de les annoncer avec une date butoir. Et à l'orée de la date butoir, d'annoncer un prolongement, sans date butoir. Et comme ça, ah ben non, mais comme on s'est pas plaint au début, ben on se plaindra plus maintenant. Et finalement, c'est terminé. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. On aurait pu vous parler des activités de plein air, alors que le 3e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes arrive à grands pas. Des actions sporadiques ont lieu en France, comme en Lorraine, où la RN52 vers le Luxembourg a été bloquée. À Rouen, où un dépôt pétrolier a également été bloqué, jeudi 11 novembre. Où il y a pas moins de 3 manifestations estampillées gilets jaunes le jeudi 13 novembre à Paris, où le rond-point de l'Oasis allemand est toujours occupé par des militants locaux le samedi. On aurait pu vous parler également à propos des activités de plein air du vendredi 12 novembre, où au CHU de Grenoble, une centaine de manifestants ont accueilli Olivier Véran, ministre de la Santé, qui disait le 26 août 2021...
L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire.
C'était il y a 2 mois et demi. Au CHU de Grenoble, vendredi 12, eh bien, il y a eu une opération soignant mort. Ils se sont allongés, enfin un dying, pour montrer à Olivier Véran que peut-être ça risquait d'être dangereux pour la santé en France si ça continuait comme ça. À noter que le même Olivier Véran, tiens, qui disait ceci le 26 août dernier.
L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire.
Ah bon ? À noter que le même Olivier Véran, donc, disais-je, viendra à Le Mans, en Sarthe, le mardi 16 novembre. Que dira-t-il ? Bon, ben maintenant, sa parole se dépréciant très très rapidement, ça risque d'avoir très peu d'intérêt. On aurait pu vous parler des migrants instrumentalisés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Le cynisme des soi-disant représentants qui sont à notre solde, normalement, est à son comble. Je rappelle quand même que les dirigeants polonais sont élus, tout comme le dictateur biélorusse. Bon, même si là, franchement, c'était trop bidonné et l'Union européenne n'a pas reconnu son élection. Bon... plus ce serait trop, mais ils en sont capables. Jouer avec la vie de milliers de personnes pour asseoir son pouvoir, faire pression sur d'autres acteurs du jeu de la géopolitique ne gêne pas tant nos soi-disant représentants. Bah, il faut dire que la population n'est pas grand-chose à leurs yeux. Je le dis en conscience, hein, n'est vraiment pas grand-chose. Nous sommes, nous, la population, réduits à des charrettes de ressources humaines, présentes sur Terre seulement pour garantir les profits des plus gros détenteurs de moyens de production. Nous sommes réduits au rôle de spectateurs politiques, alors que la loi suprême, la fameuse constitution, fait de nous, dans la plupart des pays démocratiques, des souverains. Ah oui, les exemples sont légion, hein, de votes qui, n'ayant pas plus, sont bafoués, tout simplement, le référendum de 2005 par exemple. Et en dernier ressort, nous pouvons également devenir des lots, des grappes, des personnes ballottées d'un côté ou de l'autre d'une frontière ou de n'importe quel autre espace, comme par exemple avec la Turquie en 2015. Notre humanité n'a que très peu de place dans ce monde où, pour nous vendre des produits dont nous n'avons pas besoin, il est dépensé chaque année plus de 500 milliards de dollars, quand la moitié suffirait à éradiquer la faim dans le monde, selon les calculs de l'ONU. En Biélorussie, les images se multiplient, montrant l'ampleur du désastre humanitaire et permettant de faire des bonnes audiences à la télévision et dans les autres médias. En France, les images manquent. Les images manquent pour montrer comment sont maltraités les migrants qui s'entassent dans la région de Calais en espérant trouver un passage vers le Royaume-Uni. Pourquoi les images manquent ? Eh bien parce que la police ne permet pas aux journalistes de les regarder détruire des campements de fortune. Non, oui, on est en France. À lire le reportage glaçant sur l'action de la police dans cette région, la fameuse police républicaine, dans le numéro de novembre de CQFD, un journal sans pub. Et bien sûr, sur le site de l'aubergedesmigrants.fr, où vous avez là aussi plein d'informations. L'auberge des migrants, ça s'écrit L-A-U-B-E-R-G-E-D-E-S-M-I-G-R-A-N-T-S. Surtout, mettez pas d'apostrophe, ça marche pas. L'aubergedesmigrants.fr. Et quand vous lisez les rapports de l'action des autorités françaises sur l'auberge des migrants, prévenez ceux qui sont avec vous dans la même pièce, qui ne s'inquiètent pas de vous voir vous liquéfier tant c'est à chialer. Contre les violences d'ailleurs, les harcèlements, les expulsions à Calais, manifestation ce samedi 13 novembre à Calais, en soutien aux exilés et aux grévistes de la faim, dont il y a des reportages un petit peu partout pour dire bah, « ça sert à rien ». Le rendez-vous est à 14h, place Crève-Cœur, l'a bien nommé. On aurait pu vous parler de la judiciarisation des relations sociales. En 2017, un certain Gérald Darmanin et un autre certain Sébastien Lecornu passent leurs vacances ensemble en Corse. Mediapart, un poil taquin, précise que la villa louée appartient à un repris de justice. En l'occurrence, un certain Gilbert Casanova, ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, que la justice a condamné à 8 ans de prison pour trafic de cannabis. Bah alors, c'était du commerce ? Oui, bon, d'accord. Ni une ni deux, les deux collègues de gouvernement portent plainte pour diffamation. Quoi ? Comment ça ? Notre honneur et patati patata, oui, bien sûr. On a loué une villa à un repris de justice, mais on ne savait pas qui c'était. On a fait du Airbnb. Ils ont perdu en première instance, nos deux acolytes, mais ils ont fait appel. Et c'est d'ailleurs l'appel qui leur met à nouveau le nez dedans cette semaine. Cassation, pas cassation, nous le serons bientôt pour laver l'honneur de Gérald Darmanin, qui n'est plus accusé de viol, qui regrette ses propos homophobes au début des années 2010 et qui ne fait que citer Napoléon quand il écrit que la présence de milliers de juifs est un problème à régler. Et l'honneur de Sébastien Lecornu, qui est lui toujours sous le coup d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On aurait pu vous parler de la police républicaine, puisque cette semaine, 5 anciens policiers ont été condamnés pour injures racistes non publiques envers un de leurs collègues, qui était noir, traité de nègre et compagnie, sur un compte WhatsApp. En fait, d'anciens policiers, il faut que je rectifie, l'un d'entre eux a été réintégré pour faire à nouveau respecter les valeurs républicaines. Mais il a été condamné à une amende. Bah oui, ça se dit pas, nègre, un collègue. Mais tu pourras de nouveau faire respecter les valeurs républicaines, camarade policier. On aurait pu vous parler de la schizophrénie dans les médias. Tiens, partons de l'exemple de West France, médias généralistes. À partir des unes depuis le 1er novembre. Lundi 1er novembre, la une nous dit « COP 26 en Écosse ». 15 jours décisifs pour la planète. Mardi 2, en Guyane, les militaires traquent l'orpaillage illégal et où on voit les destructions engendrées par cet orpaillage illégal. Les destructions sur la forêt. Mercredi 3 novembre, la une se fait sur l'engagement de 100 pays à lutter contre la déforestation. Vendredi 5, par contre, retour au réalisme économique. La une est sur la flambée des ventes de véhicules sans permis. Et le lendemain, samedi 6, en une, toujours, une petite page de publicité pour un garage qui vend également des véhicules sans permis. Dimanche 7, rebelote, on passe de l'autre côté, climat, pression populaire dans les rues de Glasgow. Et mardi 9, le ciel américain s'ouvre. 2 points, le tourisme repart peu à peu. Alors que nous savons que l'aérien est un émetteur important de gaz à effet de serre et de polluants, et surtout que ce moyen de transport concerne les plus riches des 7 milliards d'êtres humains, les plus riches qui sont les plus pollueurs. Alors ben, d'un côté, on a des unes. Donc les unes sont considérées comme les informations essentielles du moment. Hein. Des unes qui montrent la nécessaire lutte contre la dégradation de notre milieu de vie, à l'occasion de la COP26, mais pas que. Et puis, eh bien, celles-ci sont totalement contredites le lendemain, ou presque, par des unes. Donc, d'autres informations considérées comme essentielles, sinon on ne les mettrait pas tout en haut à gauche de la première page, où on voit que la consommation de produits et de services mortifères est mise en avant. Comme si l'achat d'une bagnole ou un voyage au bout du monde en avion pour mon plaisir avait la même valeur que la survie de l'économie. Mais le West France n'est qu'un produit parmi tant d'autres. Il vit de la publicité et donc de la vente d'espace dans ses pages. Et donc, du temps de cerveau disponible de ses lecteurs. Aussi, ce journal ne peut se permettre d'avoir des options franches sur l'intérêt de réduire la consommation, sur l'intérêt de changer de vision économique, même sur l'intérêt de rendre à la population son autonomie politique. Alors ce journal, comme l'essentiel de la PQR, donne une prime à l'existant et sert de relais aux autorités en place pour continuer à avoir de l'info. Mais je le rappelle, son objet n'est pas de renverser la table, mais plutôt de conserver une place bien assise. Je parlais de schizophrénie au début de mon propos, mais finalement, la cohérence existe. Continuez à exister. On aurait pu également vous parler de quoi ? Eh bien, de magie.
Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie.
Ah, c'est bon quand ça pilonne comme ça, hein, forcément, un bon gros bruit, on voit que ça travaille. Les contraintes de rythme qui nient absolument l'autonomie de ceux qui travaillent sont aussi comptabilisées dans l'enquête sumaire. Je rappelle que l'enquête sumaire 2017, qui nous permet d'avoir plein d'informations sur la vie dans l'industrie où il y a encore de la magie, eh bien, ça veut dire, enquête sumaire, ça veut dire surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels. Elle nous permet, je cite, de définir des actions prioritaires de prévention et de réaliser des outils d'aide au repérage des expositions pour tous les acteurs impliqués dans le domaine du travail, de la santé au travail, ainsi que d'alimenter la réflexion sur les politiques de prévention et de recherche. Eh bien, la première enquête sumaire, elle date de 1994. Elle est suivie d'une autre en 2003, puis en 2010, puis en 2017. Elles sont menées par la Direction Générale du Travail, par la Direction de l'Animation de la Recherche des Études et des Statistiques, la DARES, qui nous permet elle aussi d'avoir plein d'informations statistiques sur... Eh bien, le monde du travail, l'emploi, etc. et la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Pour la collecte 2016-2017, 1243 médecins du travail ou de prévention ont pu interroger 26 500 salariés. Puis ensuite, il y a eu des extrapolations, comme pour savoir, par exemple, combien de personnes ont subi la perversité de membres de l'Église catholique. On apprend donc par l'enquête 2017 que les contraintes de rythme dans le travail restent élevées, même si elles baissent légèrement en moyenne entre 2017 et 2010. Ainsi, quand on parle de contraintes du rythme de travail, nos éminents chercheurs retiennent le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce et ou la cadence automatique d'une machine. En l'occurrence, tout le monde revoit Charlie Chaplin en train de visser ses boulons, en train de boulonner ses boulons plutôt, et c'est exactement ça. Ça peut être aussi les contraintes de rythme de travail, la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d'un ou de plusieurs collègues. Là aussi, le collègue qui est à côté de Charlie Chaplin dans... les temps modernes, il est bien obligé de faire avec Charlie Chaplin qui, s'il ne va pas assez vite, l'empêche de faire son travail à lui. Il y a également dans ces contraintes de rythme de travail des normes de production ou des délais à respecter en une journée ou plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, les contrôles ou surveillances permanents exercés par la hiérarchie et un contrôle ou un suivi informatique, hein. Un suivi informatisé, voilà, on vous suit à la trace. Parmi toutes ces contraintes de rythme au travail, devinez qui sont les travailleurs qui en subissent. Trois le plus fréquemment, eh bien ceux de l'industrie, bien sûr. Avec 40% de la main-d'œuvre supportant au moins trois des contraintes citées auparavant. Prenons-en une en particulier, le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce et ou la cadence automatique d'une machine quand la machine décide de ta vitesse. Eh bien ça concerne, attention, 70% des ouvriers non qualifiés des industries de process. En gros, quand tu fabriques un truc. Ça concerne 41% des ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal, ouvriers qualifiés de la mécanique et ouvriers des industries graphiques. Et ça concerne 40% des ouvriers qualifiés des industries de process. Tout à l'heure, c'était les ouvriers non qualifiés. Ah oui, ils morflent toujours plus, les ouvriers non qualifiés. Donc, de fait, le trio de tête, c'est encore et toujours... Pour le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce et ou la cadence automatique d'une machine, eh bien, des ouvriers de l'industrie. Alors, camarade ouvrier, tu devras te plier au rythme défini par d'autres pour les profits de ta boîte. Mais si à la manière d'un Charlie Chaplin, tes gestes sont saccadés, n'oublie pas.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Mais on a préféré vous parler d'un certain André Gorz. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le travail est une invention du capitalisme par le biais du monde industriel que le système économique capitaliste induit à partir du 19e siècle. Revenons d'abord sur ce qu'est le travail pour André Gorz. Un petit extrait de À voix nue sur France Culture en 1991.
J'aimerais signaler d'abord que ce que nous appelons emploi et ce que nous avons appelé travail sont des notions fourre-tout. Même la notion de travail, que l'on étend aujourd'hui au travail ménager, au travail de la mère au foyer, etc., etc., sont des inventions du capitalisme industriel. Avant le capitalisme industriel, la notion de travail comme concept n'existait pas. Même dans le vocabulaire, on distinguait la peine, la corvée, le labeur, le travail, la besogne, l'occupation, l'activité et l'œuvre. On vaquait à ses occupations, on se consacrait à une activité, surtout lorsqu'elle était professionnelle ou vocationnelle, et le travail, tout comme le labeur, désignait exclusivement la peine des serfs, des journaliers, des manœuvres et des hommes de peine. Le travail était toujours un travail matériel, pénible, dans lequel l'homme s'affrontait à la matière, à la nature. Or, ces distinctions, qui ont leur importance, tendent à disparaître de nos jours, et l'indifférenciation de la notion de travail telle que nous l'employons, nous joue de très mauvais tours.
De très mauvais tours. Ce travail dont on parle actuellement et qui recouvre finalement toutes les activités est donc le travail marchandise, celui qui implique du temps vendu en échange d'une rémunération. La centralité du travail perdure, engendrant toujours plus de frustration puisque, en fait, on fait ce travail sans qu'il ait véritablement de sens. Un emploi confondu avec le travail, lui-même confondu avec tout type d'activité, ne peut, selon André Gorz, être compensé dans son absence d'implication et de sens que par le salaire permettant d'obtenir des produits dotés par la publicité commerciale de vertus symboliques, faisant du travailleur consommateur un privilégié. André Gorz décrit un monde gouverné par la possession de marchandises, donnant un sens à la dépossession de notre autonomie d'action par la vente de notre temps. Seulement du travail ? Il n'y en a plus. Dans un texte qui servit de base de discussion au colloque international des syndicats chrétiens de Bruxelles en 1986, André Gorz explique: le propre des sociétés de travail, où règne l'éthique du travail, c'est que le travail y est considéré tout à la fois comme un devoir moral, comme une obligation sociale et comme la voie vers la réussite personnelle. L'idéologie du travail tient pour acquis que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve. Que ceux qui travaillent peu ou ne travaillent pas portent un préjudice à la collectivité et ne méritent pas d'en être membres. Que qui travaille bien réussit socialement et que qui ne réussit pas en porte lui-même la faute. Beaucoup d'entre nous restent profondément imprégnés par cette idéologie et il n'est pas de jour qu'un homme politique de gauche, de droite ne vienne nous exhorter au travail en affirmant que c'est par le travail que nous surmonterons la crise présente. Pour, entre guillemets, vaincre le chômage, ajoute-t-on, il faut travailler plus et non pas moins. En réalité, l'éthique du travail est devenue caduque. Il n'est plus vrai que pour produire plus, il faut travailler plus, ni que produire plus conduit à vivre mieux. Le lien entre plus et mieux est rompu, car pour beaucoup de produits ou services, nos besoins sont largement couverts, tandis que beaucoup de nos besoins satisfaits seront comblés, non pas en produisant plus, mais en produisant autrement, autre chose, voire en produisant moins. Cela vaut en particulier pour nos besoins d'air, d'eau, d'espace, de silence, de beauté, de temps, de contact humain. Ah, une société du... Une société qui aurait tellement accru ses gains de productivité par l'automatisation, la robotisation, l'informatisation, qu'elle a réduit finalement la quantité de travail comme peau de chagrin. Une société où finalement, il apparaît plus important de travailler que de construire du beau, du silence, du tranquille, des trucs sympas, quoi. Le chômage structurel de masse, réalité depuis les années 80, induit une résistance des tenants de l'idéologie du travail, et notamment la doctrine nouvelle des ressources humaines, expliquée dans « Métamorphose du travail », un ouvrage de 1986. Le revirement est complet, nous dit André Gorz. Il s'agit de rien de moins que de rétablir cette unité du travail et de la vie que la rationalisation économique s'était ingéniée à supprimer au profit d'une conception instrumentale du travail. L'entreprise, à la faveur de la crise, de l'exacerbation de la concurrence et des mutations techniques, doit devenir un lieu non plus d'intégration fonctionnelle, mais d'intégration sociale et de développement professionnel. Telle est du moins la nouvelle idéologie dite de la ressource humaine. Par certains côtés, elle semble être en progrès par le pan-rationalisme économique. Elle reconnaît implicitement que la force de travail n'est pas un instrument comme les autres et que son efficacité, sa performance dépendent de facteurs qui ne sont pas calculables et ne relèvent pas de la rationalité économique. C'est-à-dire le climat de l'entreprise, la satisfaction au travail, la qualité des rapports sociaux de coopération, etc. Par d'autre côté, l'idéologie de la ressource humaine prépare l'instrumentalisation ou, comme dit Habermas, la colonisation par la rationalité économique des aspirations non économiques. L'entreprise de type nouveau s'efforcera de les prendre en considération, mais c'est parce qu'elles sont des facteurs de productivité et de compétitivité d'un genre particulier. Toute la question est de savoir si cette prise en compte prépare une exploitation et une manipulation aggravée des travailleurs ou une autonomisation des valeurs extra-économiques non quantifiables jusqu'au point où elles restreindront les droits de la logique économique au profit de leurs droits propres. Eh bien, on se pose la question, mais maintenant, on s'aperçoit que, une trentaine d'années plus tard, le tout économique est quand même en train de gagner du terrain. La transformation de tous en collaborateurs colporte... Je vais y arriver. La transformation de tous les collaborateurs, de tous, pardon, en collaborateurs corporate n'empêche pas l'absence réelle d'emploi pour tous. Dans un ouvrage de 1997 intitulé « Misère du présent, richesse du possible », André Gorz écrit à propos du déclassement. Craignez, tremblez, le message idéologique a changé. De « qu'importe le travail pourvu que la paye tombe à la fin du mois », il est devenu « qu'importe le montant de la paye pourvu qu'on ait un emploi ». Autrement dit, soyons prêts à toutes les concessions, humiliations, soumissions, compétitions, trahisons pour obtenir ou conserver un emploi. Car qui perd l'emploi, perd tout. Tel est, selon le sentiment général, du moins le message du discours social dominant. Il exalte la centralité du travail, présente celui-ci comme un bien, autant dire comme une marchandise rare, comme quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, non comme quelque chose qu'on fait en y dépensant ses forces et son temps, comme un bien pour la possession duquel il faut être prêt à des sacrifices, comme un bien pour la création duquel, car désormais ce n'est pas le travail qui crée de la richesse, c'est la richesse qui crée du travail, les créateurs de travail, c'est-à-dire les employeurs, le patronat, les investisseurs, les entreprises, méritent les encouragements et la reconnaissance de la nation, les subventions, incitations et dégrèvements du fisc, le travail, un bien, l'emploi, un prix. Privilège de plus en plus rare car le travail va manquer. Et quelles que soient vos compétences, vous risquez d'en être privé avant longtemps. Énorme supercherie. Il n'y a pas et il n'y aura plus jamais assez de travail rémunéré, stable, à temps plein, pour tous. Mais la société, en fait, le capital, qui n'a plus besoin et aura besoin de moins en moins du travail de tous, s'en va répétant que ce n'est pas elle, la société, oh que non, c'est vous qui avez besoin de travail. Qu'elle va se donner du mal, beaucoup de mal, pour vous trouver, procurer, inventer du travail. Du travail dont elle-même pourrait se passer aisément, mais dont vous avez un besoin absolu. On a donc un renversement total du paradigme, comme on dit maintenant. D'un côté, auparavant, les industriels avaient besoin du travail des ouvriers, et maintenant, ce sont les personnes qui ont besoin de travail, alors que c'est une invention du monde industriel. Cet ouvrage, « Misère du présent, richesse du possible », comme métamorphose du travail, une décennie plus tôt, est l'occasion de rappeler que le travail rémunéré suffisamment, que le travail stable et que le travail à temps plein ne concerne plus grand monde, autour duquel gravitent des intérimaires, des travailleurs à temps partiel et encore plus précaires. Devenus au XXIe siècle les fameux auto-entrepreneurs. Le monde du travail se hiérarchise autrement. Dans Métamorphose du travail, eh bien justement, il nous décrit, André Gorz nous décrit la métamorphose et cette nouvelle hiérarchie. L'inégale répartition du travail de la sphère économique et l'inégale répartition du temps que libère l'innovation technique conduisent ainsi à ce que les uns puissent acheter un supplément de temps libre à d'autres et que ceux-ci en sont réduits à se mettre au service des premiers. Cette stratification-là de la société est différente de la stratification en classe. À la différence de cette dernière, elle ne reflète pas les lois immanentes au fonctionnement d'un système économique dont les exigences impersonnelles s'imposent aux gérants du capital, aux administrateurs des entreprises, aux tant qu'aux salariés. Pour une partie au moins des prestataires de services personnels, il s'agit cette fois d'une soumission et d'une dépendance personnelle vis-à-vis de ceux et de celles qui se font servir. Une classe servile renaît que l'industrialisation après la Seconde Guerre mondiale avait abolie. Et un peu plus loin, certes, l'existence d'une classe servile est moins patente aujourd'hui qu'elle ne l'était aux époques où les classes aisées entretenaient une domesticité nombreuse à demeure qui, dans les recensements britanniques sous la rubrique domestique et serviteur personnel, représentait pas moins de 14% de la population employée entre 1851 et 1911. C'est que les services aux personnes aujourd'hui sont en grande majorité socialisés ou industrialisés. La majorité des serviteurs est employée par des entreprises de services qui loue aux particuliers la main-d'œuvre précaire, employée à temps partiel, payée à la tâche qu'elle exploite. Mais cela ne change rien au fait. Il s'agit d'un travail de serviteur, c'est-à-dire d'un travail de ceux qui gagnent bien leur vie, c'est-à-dire d'un travail que ceux qui gagnent bien leur vie transfèrent pour leur avantage personnel et sans gain de productivité sur celles et ceux pour lesquels il n'y a pas d'emploi dans l'économie. Nous voilà donc dans une société de services, dans toute sa splendeur, au risque de réduire encore le sens à donner aux activités, la marchandisation des liens sociaux, par exemple. Le but étant d'économiciser. André Gorz explique cela dans l'introduction de Métamorphose du travail, en utilisant un article paru dans Le Monde en octobre 1986, sous la plume de Lionel Stoléru, un centriste plusieurs fois ministre, un article intitulé « Le chômage de prospérité ». L'intérêt de ce texte, apparemment économique, tient à la richesse des sens explicites et implicites qui s'y superposent. Tout d'abord, à la différence de la plupart des idéologues patronaux et des dirigeants politiques, Stoléru ne nie pas que la présente mutation technique économise du temps de travail à l'échelle de la société, et non pas seulement à l'échelle de l'entreprise. Elle permet de produire plus et moins avec moins d'heures de travail et avec moins de capital. Elle permet d'abaisser le coût salarial mais aussi le coût en capital par unité de produit. L'informatisation et la robotisation ont donc une rationalité économique, laquelle se définit précisément par le souci d'économiser, c'est-à-dire de mettre en œuvre les facteurs de production de la manière la plus efficace possible. Et un peu plus loin, du point de vue de la rationalité économique, le temps de travail économisé à l'échelle de la société, grâce à l'efficacité croissante des moyens mis en œuvre et du temps de travail disponible pour une production additionnelle de richesses. C'est bien là ce que nous dit Stoléru avec quelques insistances, puisqu'il y revient par deux fois. Le temps de travail économisé, écrit-il, permet de rémunérer celui qui a perdu son emploi, en l'employant pour une autre activité économique, ou en rémunérant des activités qui jusque-là n'étaient pas rémunérées ni considérées comme faisant partie de l'économie. Il permet de créer de nouveaux emplois ailleurs dans l'économie. Et Stoléru précise, ne serait-ce que dans les loisirs. Le modèle envisagé implicite est donc celui d'une économie qui ne cesse d'englober de nouveaux champs d'activité à mesure que du temps de travail est libéré dans les champs qu'elle occupait jusqu'alors. Cette extension du champ de l'économie va toutefois, conformément à sa rationalité propre, conduire à de nouvelles économies de temps. Économiciser, c'est-à-dire inclure dans le champ de l'économie ce qui en était encore exclu. Cela veut dire que la rationalité économique génératrice de gains de temps va gagner du terrain et dégager des quantités croissantes de temps disponibles. Et donc, puisqu'il y a encore de la productivité, de moins en moins de travail. Ce qui nous amène à conclure, ainsi en pleine crise de la société du travail, l'idéologie de la centralité du travail reste le discours asséné. La peur du déclassement, l'absence d'alternatives de masse à l'emploi salarié permet aux tenants du capital d'ajouter de nouveaux champs à la marchandisation du monde. Seulement, la logique interne du capitalisme continuera à détruire de l'emploi au nom de la rationalité économique. André Gorz appuie sur le temps économisé dans la production du nécessaire et même du suffisant. Alors que dire du superflu ? Du temps, voilà la seule richesse, affirmait-il. Mais qu'en faire ? Nous verrons ça la prochaine fois. Alors là, on est vraiment carrément à la bourse. C'est pourquoi je me précise. Je précise simplement que, bah, je précise qu'on va juste vous dire allez, au revoir.
Thank you.